Alice Zénitaire, bonjour.
Bonjour.
On va évacuer cette question d'emblée. Il y a évidemment une dimension autobiographique dans ce livre. Vous êtes vous-même petite fille de Harki, Alice Zénitaire?
Alors, je suis petite fille de quelqu'un qu'on a appelé Harki par la suite, bien qu'en fait, mon grand-père n'ait jamais fait partie d'une Harka. Donc, je viens d'une famille qui a été touchée par le dévoiement du mot que je raconte dans le livre. Et puis la question de la dimension autobiographique, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que évidemment, quand on regarde l'histoire de ma famille, on peut avoir l'impression qu'elle ressemble énormément à celle de L'Art de perdre, et ça n'est pas faux. Mais parler de la dimension autobiographique du livre, c'est oublier que l'histoire de ma famille, ça a surtout été des silences, et que donc il a été absolument nécessaire pour moi d'inventer, de créer une fiction pour combler les trous qui existaient très très nombreux entre les quelques jalons que j'avais qui eux existaient en très peu nombreux. Et en fait, je pense que c'est vraiment assez récemment, enfin dans ma vingtaine, que j'ai réalisé que moi qui étais vaguement originaire d'Algérie, je connaissais moins de choses sur l'histoire de ce pays, la géographie de ce pays, enfin toutes les données qui en font un pays, que des gens qui n'avaient aucun lien avec lui, mais qui, eux, avaient fait des recherches parce que passionnés par l'histoire, par la géopolitique, parce que attirés par cette partie du monde. Et là, je me suis dit, c'est quand même très intéressant de constater à quel point venir d'un pays ne nous garantit aucunement de le connaître.
Et alors donc, la forme, le roman, ça s'est imposé d'emblée, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait en effet ces silences à combler. Vous l'écrivez d'ailleurs, hein, page 23, la fiction, c'est tout ce qui reste pour combler les silences transmis entre les vignettes d'une génération à l'autre.
Oui, alors, oui et non. C'est-à-dire que, pendant un moment, je me suis dit que je ferais des recherches sur cette histoire, mais que peut-être c'était des recherches qui serviraient uniquement pour moi, pour combler ces silences de manière personnelle. Et donc, dans ces cas-là, je n'avais pas besoin de les romancer. Et il y a quelques années, j'ai commencé à me dire que quand même, cette histoire que personne n'avait racontée par la fiction, et qui dans les livres...
Qui n'a pas de sa place encore dans la littérature,
exactement,
c'est vrai.
Et qui donc dans les livres d'histoire et dans les livres de témoignages continuait à être quelque chose de violent, continuait à être une blessure sur laquelle tout le monde s'affrontait. Il y a une guerre des mémoires, il y a une guerre des chiffres. Et je me suis dit que peut-être, s'emparer de tout ce pan de l'histoire hérissée d'épines et de le proposer à des lecteurs par la fiction, ça permettrait quelque chose de différent. Ça permettrait de leur faire connaître cette histoire d'une manière qui n'est pas une manière polémique, qui est une manière sensible. Et donc,
de l'extraire de tout enjeu politique, idéologique ou mémoriel.
Alors oui et non, parce que encore une fois oui et non. le livre a pour moi une portée politique, mais qui est différente, qui est une portée politique dans le sens où ça questionne ce que c'est que... une trajectoire de vie, le poids des déterminismes face à ce qu'on voudrait être une liberté de choix, la question de l'engagement, comme une conscience libre qui s'engage quand on la passe au crible de tout ce qu'ils peuvent entraver cette liberté de choix, donc notamment dans le cas d'Ali, un manque d'éducation, un manque d'ouverture à un monde plus large que celui qu'il connaît, etc. Pour moi, ce sont des angles d'attaque qui sont politiques. Mais ce n'est pas une défense ou une revendication autour de la question des harkis ou autre.
On connaît en gros cette histoire des harkis, même si elle reste encore largement occultée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui, pour vous, a été la découverte la plus stupéfiante, la plus surprenante ?
Moi, je connaissais très très mal l'histoire des camps. Pour tout dire, je ne la connaissais pas.
Donc ces camps dans lesquels sont parqués les harkis lorsqu'ils arrivent en France.
Donc ces camps qu'on appelle des camps de transit et de reclassement dits provisoires, et qui pour certains ont duré 20 ou 30 ans. Et donc de découvrir qu'en fait, à leur arrivée Ceux qu'on appelait les harkis et leurs familles ont été parqués dans des camps, que quand ils sont sortis de ces camps, c'était pour aller dans des hameaux de forestage et de là pour aller dans des cités HLM, etc. Et que donc il y a eu... Il y a eu une trajectoire à la marge de la vie, à la marge de la France, qui s'est étalée pendant des dizaines d'années. Et donc, en fait, ces gens ne sont pas arrivés au moment où ils posaient le pied sur l'autre rive de la Méditerranée. Ils n'en ont jamais fini d'arriver, quoi, et on les a bougés, etc., pendant très très longtemps, sans leur laisser de choix, puisqu'on leur donnait une sorte de couple comme ça, sacré, le logement et un travail, ils ne pouvaient choisir ni l'un ni l'autre. Et évidemment, voilà, en découvrant ça, j'ai pensé aux migrants aujourd'hui, et je pense que ça a été un des moteurs très très forts aussi pour écrire ce livre et pour en faire une fiction et pour pouvoir la partager. Ça a été l'écho tragique et en même temps absurde avec la situation actuelle.
Alors il y a quelque chose de plus tragique encore pour les harkis, ce sont évidemment des migrants qui rappellent ceux d'aujourd'hui, mais avec en plus un retour absolument impossible, voire interdit, qui ajoute à la dimension tragique de cet exil.
Ce sont des gens pour qui il est très difficile en effet de retourner en Algérie. Voire impossible, ça dépend des cas, encore une fois, il faut pas généraliser.
Et surtout, c'était le cas pour la première génération, bien sûr.
Et donc, on a affaire à quelque chose que je trouvais, à la fois bouleversant et en même temps très intéressant du point de vue de la fiction, à savoir, voilà, c'est des gens qui sont sommés d'oublier un pays entier et tout ce qui y faisait leur vie. Donc des choses minuscules, enfin des paysages, des odeurs, des manières de faire certains gestes qui, une fois qu'ils sont arrivés en France, sont considérés comme des manquements, comme des gaffes, des conduites impropres, etc. Alors que ce sont simplement des choses qui étaient tout à fait propres et à leur place dans leur vie d'avant. Et une fois qu'un pays est perdu, qu'est-ce qu'on fait avec les souvenirs du pays perdu? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce que ce pays perdu nous a transmis, la manière dont il nous a formés, etc. Et c'est vrai que j'aimais cette idée d'une sorte de pays fossilisé, que pour la famille d'Ali, une fois en France, l'Algérie est comme mise sous une cloche de verre, elle ne changera plus, elle n'existe plus comme vrai pays, elle est la somme de tous leurs souvenirs qu'ils baladent avec eux et qui va s'amenuiser de plus en plus d'une génération à l'autre, puisqu'il y a cette scène où je décris qu'en fait, dans leur fuite, ils n'ont pu emporter que quelques petits objets et que ces petits objets, une fois qu'ils sont dans l'appartement HLM avec ses angles, ses lignes, son mobilier neuf en formica, etc. Ils ne savent pas où les mettre. Et donc, Yema les déplace d'une pièce à l'autre, d'un tiroir à l'autre. Et rien dans l'appartement ne semble fait pour accueillir ces objets. Et donc, ils finissent cachés quelque part. Et les enfants les sortent. Et je dis que, comme si c'était les vestiges d'un aéronef qui se serait crashé dans le désert, porteur d'une civilisation inconnue et lointaine.
Alors, c'était aussi un grand livre sur la honte, évidemment, avec son corollaire qui est le silence. Ça, c'est quelque chose que vous aviez envie d'explorer aussi en tant que romancière.
La honte, c'est un sentiment que je trouve très intéressant parce que c'est un sentiment social. On peut ressentir de la colère, de la tristesse tout seul. La honte, c'est toujours par rapport aux autres. Et donc, justement, ça interroge cette idée de qu'est-ce qu'on est pour soi-même et qu'est-ce qu'on est dans le regard des autres. Il y a ce moment où Hamid réalise qu'en fait, même quand il se tait, les autres projettent quelque chose sur lui et que le silence n'est pas un espace neutre, mais un écran de projection laissé libre aux fantasmes, aux préjugés, etc. de tout le monde. On ne vit pas une vie tout seul comme un caillou, on est relié aux autres et la honte s'inscrit puissamment dans cette toile qui nous relie aux autres.
On va finir avec le personnage de Naïma. Et alors là, ce thème, qui est peut-être d'ailleurs, il y en a beaucoup, mais le thème central de ce livre est peut-être celui dans lequel vous vous projetez vous-même personnellement le plus, c'est évidemment la construction d'une identité, comment devenir soi en faisant abstraction d'origine, qu'elle soit réelle ou qu'on vous attribue, d'un passé, d'un héritage. Là aussi, l'art de perdre, c'est toute une puissante réflexion autour de ce thème.
C'est une série de questions, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça apporte des réponses, mais puisqu'il y a cette idée aussi que, qu'il n'y a pas forcément de réponse fixe, enfin, que se construire est un combat quotidien et oui, et que l'identité, si elle existe, elle n'est pas une, elle n'est pas figée, elle est plastique, elle est multiple, elle dépend aussi de qui on a en face de soi. Naïma quand elle est en France, et surtout donc dans la France post-attentat, elle a l'impression que tout le monde lui renvoie son identité de maghrébine, issue de l'immigration, et qu'à ça est attaché l'islam, donc comme si un maghrébin n'avait pas le droit d'être athée. Et en même temps, évidemment, quand elle arrive en Algérie, ce qu'elle se prend dans la figure, c'est à quel point elle est française. Et elle n'imaginait même pas à quel point, et aussi à quel point elle est une femme. Ce qui finalement allait assez bien dans sa vie de tous les jours à Paris, où elle avait l'impression de pouvoir être déterminée par autre chose que par ça. Et tout à coup, en Algérie, elle découvre qu'avant d'être Naïma, elle est une femme. Et donc voilà, il y a l'idée aussi de cette identité qui est mouvante.
Mais on peut vraiment s'abstraire de ce qui nous a précédé.
Je ne crois pas qu'on puisse s'en abstraire tout à fait. Je ne crois pas qu'on soit tout à fait libre de décider qu'on peut s'en abstraire, etc. Je crois que par contre, il y a un combat qui a pour but un maximum de liberté. Et que paradoxalement, en fait, cette liberté de ne pas être déterminée par le passé, elle passe forcément par apprendre à connaître le passé. Et c'est pour ça que vont conjointement donc un droit à l'histoire et un droit au silence, et que chacun en fait fait sa tambouille personnelle, son dosage personnel avec ça.
Le voyage en Algérie, Alice Zeniter l'a effectué aussi comme Naïma.
J'en ai fait deux, oui, en 2011 et en 2013.
Et alors?
De manière assez similaire à celle de Naïma, j'ai d'abord été écrasée par le fait que ce voyage ne pouvait pas être anodin et que donc je n'arrivais pas à être simplement présente. J'étais tout le temps en train de braquer sur moi une caméra intérieure qui cherchait à savoir si je ressentais quelque chose de particulier qui pourrait être interprété comme le fait que oui, en fait, j'étais quand même un peu algérienne, etc. Et puis finalement, et c'est ce que pour moi raconte aussi beaucoup la troisième partie avec le personnage de Lala, ce vieux peintre que Naïma va rencontrer, c'est l'idée qu'on peut choisir ses passeurs. Que oui, la transmission est importante, comme je le disais à l'instant, mais que la transmission, elle n'a rien à voir avec la biologie et qu'on n'est pas obligé de recevoir une histoire ou un pays de la main de ses parents et de ses grands-parents. On peut aussi choisir des passeurs qui nous sont plus proches intellectuellement ou politiquement et à partir de leurs paroles à eux, du coup, se refaire une Algérie. Et là, quand je dis Algérie, ça pas, en fait, c'est pour désigner tous les pays intimes, se refaire une Algérie qui correspond à ce qu'on cherche dans la vie au lieu d'être celle forgée dans la mémoire des autres et un peu trop distante par rapport à nous.
Et les retours, bon, évidemment, le livre est déjà beaucoup lu. Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent? Qu'est-ce qui revient?
En fait, moi, ce que je trouve assez dingue, c'est la manière dont les gens y reconnaissent une histoire personnelle, quand bien même elle serait tout à fait différente. Par exemple, mon éditrice allemande me dit qu'elle reconnaît tout à fait sa grand-mère dans Yema. Et donc, moi, évidemment, je commence à me dire, mais parce que ta grand-mère est... Et non, en fait, sa grand-mère est russe, mais elle a été déplacée. Et donc, c'est cette même idée, voilà, de perte de la terre, de nostalgie de la terre, de silence, d'impression d'inadaptation des anciens et donc les nouvelles générations qui les regardent soit avec honte, soit avec un mépris rigolard, etc. Et voilà, et comme ça, j'ai énormément de retours qui font que Ali et Yema, tout à coup, sont espagnols, russes, mexicains, et que les gens s'identifient pleinement à ça. Voilà. Je déteste le mot d'universel parce que j'ai un peu l'impression que c'est un petit air de violon qu'on nous répète à chaque fois, qu'un livre paraît et qu'on veut que tout le monde puisse le lire. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est quelque chose de cet ordre-là.
On pourrait le formuler autrement, nous sommes tous des harkis.
Ou alors les harkis n'existent pas.
Merci Alice Zeniter, L'art de perdre, publié chez Flammarion.